sauter sur un train et disparaître au bout du chemin, ou peut-être même embarquer sur un radeau. Ceux qui pensent que je vais noyer, oublient que j'ai appris à nager.
Pourquoi écouter du Vilain Pingouin alors que je m'apprête à parler à Michel Jean? Ben, c'est parce que Vilain Pingouin, c'est la trame sonore musicale de son dernier roman, Joe Jagger. Il y a des paroles, des chansons de Vilain Pingouin qui ponctuent la trame du livre. Donc, c'est pour ça que j'ai ouvert avec ça. On l'a au bout du fil, Michel Jean, qui est auteur, chef d'antenne à TVA. Bonjour, Michel.
Salut Jean-Simon, salut tout le monde.
Pourquoi Vilain Pingouin, d'abord?
Ben, écoute, honnêtement, c'est un peu un hasard parce que je cherchais un personnage qui serait un poète, mais qui parlera à travers les chansons. C'est un itinérant, donc quelqu'un qui est un peu brisé. Et puis, j'étais dans le tour, puis j'entends la radio Vilain Pingouin qui joue, puis je commence à me dire, wow, les paroles sont vraiment bonnes. Tu sais, on écoute Vilain Pingouin, mais si on commence à écouter les paroles, là, j'ai commencé à écouter, puis je me suis rendu compte que il y avait beaucoup de chansons avec des paroles qui avaient une profondeur, puis qui correspondaient à ce qu'un personnage comme voudrait dire. Alors, j'ai commencé à piger dans les chansons, puis chaque fois que Kaya parle, ben quand il parle, lui, il récite des chansons des Vilains Pingouins, mais qui fit avec la situation. Alors, c'est ça, je pense à la richesse des textes de Rudy Kaya qui fait que ça m'a facilité la chose, puis j'étais bien content que les gars de Pingouins acceptent qu'on prenne les textes dans le livre.
Oui, c'est ça. La thématique permet un peu de suivre la trame du roman qui traite d'un sujet quand même assez sombre. Dans Joe Jagger, ça commence de façon très dure. C'est différent, par exemple, de Cocoum, du début de Cocoum. Est-ce que c'est différent d'écrire un roman qui commence d'une façon aussi brutale?
Ben oui et non, en fait, pour moi, l'ambiance, c'est pas si important, c'est pas si difficile que ce soit d'un côté ou de l'autre. C'est juste que ça donne une couleur au roman. Dans Cocoum, on suivait à ce moment-là Almanda, qui était mon arrière-grand-mère, qui était peut-être plus vieille. Alors, il fallait que ses réflexions, que son esprit soit en harmonie avec la nature. Dans Joe Jagger, ben, c'est une vie de quelqu'un de brisé. Donc, ça commence avec une scène qui est très violente, qui a un rythme quand même enlevant. Alors, c'est juste que c'est comme d'essayer d'imprégner une odeur ou un rythme différent au roman dès le départ. Mais en termes d'écriture, c'est pas plus dur un que l'autre. C'est juste. J'imagine que pour un musicien, c'est comme faire un slow ou faire une pièce rythmée. C'est pas plus dur, c'est juste différent.
C'est juste une façon différente d'aborder ça. Mais encore une fois, et dis-moi si je me trompe, mais j'ai vraiment l'impression qu'un des thèmes récurrents, l'espèce de leitmotiv dans ton œuvre, c'est l'identité. En tout cas, moi, c'est ce qui me parle beaucoup, autant dans Cocoum, autant dans Joe Jagger. Il y a une question d'identité, la recherche, la définition de l'identité. Comment tu définirais ça, toi, Michel, l'identité?
Ouais, t'as raison, Jean-Simon. Mon éditrice, un jour, m'a dit, toi, Michel, as-tu tout ce que t'écris, ça rapporte avec l'identité, puis ça m'a frappé quand elle m'a dit ça, parce que je m'en étais pas rendu compte. Puis c'est pas consciemment que j'ai fait ça. Je pense que ça tient au fait que c'est une chose qui, moi, personnellement, m'interpelle. Tu sais, étant Innu, grandi en ville, qui s'est toujours posé mille une questions sur c'est quoi la part autochtone, tu sais, qui reste en toi quand... Oui, t'es né autochtone, mais t'es élevé en ville, avec des valeurs, des gens de la ville, etc. Puis qu'est-ce qui reste en toi? Donc, ça, je pense que quelque part, ça teinte mon écriture, puis les thèmes des livres que je choisis. Mais en même temps, je pense que c'est quelque chose qui est quand même positif, parce que chacun de mes personnages, quand il se pose ce genre de questions-là, le cheminement pour trouver les réponses est peut-être difficile, mais ça mène toujours quelque part vers une certaine lumière ou vers quelque chose qui est plus porté vers l'espoir que le désespoir. Parce que c'est comme ça aussi, c'est dans ma nature. Je suis pas quelqu'un de désespéré et où je suis quelqu'un qui est un éternel optimiste. Alors, ça, inévitablement, il va y avoir, même dans les romans ou les fins pop, tu sais, Cocoum, ça finit pas gay.
Non.
Mais quelque part, il y a l'amour qu'Almanda ressent pour Thomas, qui l'aide à passer au travers. Puis dans Joe Jagger, ben, on est dans autre chose.
Oui, tout à fait. Et il y a l'héritage que ça laisse aussi. Puis cette question-là de racine, je la comprends très bien. Mon père est vietnamien, c'est un réfugié. Mm-hmm. Fait que toute ma vie, j'ai un peu réfléchi à qu'est-ce que je garde de ça. Est-ce que je veux garder quelque chose de ça alors qu'on m'a écœuré là-dessus? Toi, te rattacher, te réapproprier tes racines et nous, est-ce que tu as trouvé ça difficile comme processus?
Mais toi, quand tu dis on m'a écœuré là-dessus, ce que tu dis quand tu dis ouais. ça, c'est que dans le fond, tu sais, la différence a été quelque chose qui a comporté des difficultés.
Oui.
Passe par-dessus, etc. Mais ça a été, tu sais, ça affecte une cible de blague, etc. Moi, j'ai vécu ça aussi avec les Autochtones. C'était plus facile pour moi de le cacher que j'étais Autochtone parce que si j'en parle pas physiquement, les gens qui me connaissent savent que je suis Autochtone. OK, mm-hmm. Tu ressembles à un Autochtone, mais en même temps, les yeux clairs, je peux passer pour un blanc assez facilement. Tu sais, ça m'a donné ce qu'on appelle des fois la white pass, comme le personnage d'Elisabeth dans mon roman. Mais le fait est que, quelque part, ça laisse toujours une trace. Tu sais? Et même si on passe par-dessus, même si on fait une vie puis on s'organise, non. Il reste toujours quelque chose de ça. Tu sais, toi-même, tu te poses la question, ça prouve que quelque part, tu sais, ça laisse une trace. Et je pense que on est beaucoup de personnes comme ça au Québec. On est beaucoup de gens qui vivent ça à différents degrés.
Oui, je pense que c'est criant d'actualité ce que tu dis, ce que tu racontes dans tes romans aussi, d'autant plus avec ce qu'on apprend sur les peuples, les Premières Nations, avec l'histoire des pensionnats, tout ça. Tu dis que t'es un éternel optimiste. T'es-tu optimiste pour le futur des Premières Nations, le futur des membres des Premières Nations?
Oui, parce que je pense que les Québécois ont fait des gros progrès depuis une couple d'années, je dirais, depuis la mort de Joyce Echaquan. Ça a été un gros événement depuis la Commission Vérité et Réconciliation où ça a commencé tranquillement. Ouais. À mort de Joyce Echaquan, tu sais, moi j'avais été le premier journaliste à jouer les extraits, puis tout le monde a joué ces extraits-là, évidemment. Puis je me souviens qu'à un moment donné, tu sais, il y avait des médias qui ne diffusaient pas les paroles des infirmières. Parce ouais. que par respect, dans le fond, pour la victime. Et moi, mes patrons m'ont demandé, genre, devrais-tu, tu sais, pas jouer? Puis moi, j'ai dit non. Ça fait longtemps que les Autochtones entendent ça. Il est temps que les Blancs l'entendent. Fait qu'on on les a gardés. Tu sais, je pense que ça a été comme... Ça a fait bouger les choses. Moi, je pense aussi que le Québec et le Canada n'auront pas le choix. Je veux dire, j'arrive d'Allemagne, là, je suis en Allemagne, puis j'ai parlé avec beaucoup de journalistes allemands là-bas, à TV, à radio, écrit. J'ai fait plusieurs entrevues avec la France dans la dernière année, puis le nombre de personnes... Les journalistes qui me posent des questions, ces questions autochtones, puis qui parlent de Trudeau, qui parlent de M. Legault, puis qui parlent des corps découverts dans les sites des anciens pensionnats dans l'Ouest, puis qui questionnent le gouvernement, puis qui me disent que ça a changé leur vision du Canada maintenant. Je dis, en Allemagne, le reporter me disait, nous, on a notre part d'histoire sombre, puis on le sait, mais on pensait pas que le Canada en avait une aussi, puis aussi sombre que ça. Je dis, on parle de 700 corps d'enfants qui sont découverts, enterrés anonymement, puis après ça, un autre 300. Je veux dire, le reste du monde, là, ça les a frappés. Et donc, ils commencent à regarder le Canada de façon différente. Alors, on ne pourra pas, pendant des années, là, on ne s'occupait pas de ce que les Autochtones disaient, demandaient. C'est le gouvernement, tu sais, le gouvernement, quand le gouvernement a fait le plan Nord, il n'y a pas de consulter les Inuits, pourtant, c'est sur notre territoire. c'est le plan Nord, on a un gros plan. Les gens, ah oui, il y a une mine d'uranium vraiment dans les monts Atiches qui sont sacrés pour les Inuits. Il y a vraiment un projet. Faire ça, personne ne nous en a parlé. Mais je pense qu'aujourd'hui, le Canada, il ne pourra pas se permettre de fonctionner comme ça. Puis, parce que sinon, ben, c'est le regard du monde qui change. Puis ça, pour un pays, c'est quelque chose que tôt ou tard, qui fait une pression. Donc, les yeux du monde sont regardent le Canada d'une manière différente. Alors, je pense qu'il y a comme une obligation de trouver des solutions.
En même temps, puis là, je vais citer un de tes personnages dans Joe Jagger, Geronimo, qui dit à un moment donné, quand il parle du mode de vie des Autochtones qui a changé, il dit « Le monde a changé ». C'est un peu ce que t'exprime. Le monde change, le regard du monde change. Le monde a changé, mais les humains restent les mêmes. C'est ça qui, peut-être un point de vue plus cynique de ma part, là, mais c'est ça qui me fait peur un peu, c'est que le monde change, mais les gens restent les mêmes. Est-ce que c'est pas être un peu condamné à rester étiqueté par sa différence, à rester un peu marqué au fer rouge?
Ben, je pense que, de toute façon, la différence, on veut pas la perdre, d'une certaine manière. La différence, elle reste qu'elle est importante. Et quand les gens restent les mêmes, c'est vrai. tu regardes l'humanité, depuis 2000 ans, on a fait des progrès technologiques de façon incroyable, tu sais, on est parti du cheval à aller à la fusée.
Oui.
Mais au plan de la pensée, on pense encore comme Aristote puis les Grecs, puis on a encore les mêmes schèmes de pensée qu'on avait il y a 2000 ans. Donc lui-même évolue pas au même rythme que l'environnement que lui fait évoluer autour de lui. Fait qu'on reste, toujours les mêmes gens, puis on reste des humains. Mais je pense quand même que les sociétés, elles, finissent par évoluer dans le bon sens ou dans le mauvais sens.
Mm-hmm.
Je veux dire, et ça, c'est des mouvements sociaux qui font ça. Tu sais, si tu regardes aux États-Unis actuellement, la situation, l'instabilité, puis la radicalisation, et à gauche et à droite, les partisans de Trump qui chicanent avec les autres républicains, puis à gauche, l'aile plus radicale, démocrate, oui, qui chicanent avec... Il y a comme une radicalisation là-bas qui correspond à quoi? Qui correspond à des mouvements de société. Ça pousse les États-Unis dans une direction qu'on n'aurait pas pensé. Alors, c'est imprévisible, puis c'est pas nécessairement toujours dans le sens qu'on veut, mais les sociétés changent. Alors moi, j'ai confiance quand même qu'au Québec, la société va pousser puis changer vers quelque chose de plus fair, plus juste, notamment pour les peuples autochtones. Tu sais, moi, j'ai la cousine de ma mère qui était passionnée de Fort-Georges, puis elle est disparue, tu sais, comme les enfants de CoSS, puis on n'a jamais su. Ils ont dit qu'elle était malade, ils l'ont envoyée à Montréal, elle était au pensionnat qui était à la Beijing, puis ils l'ont envoyée à Montréal dans un hôpital, supposément, elle n'était jamais revue. On n'a jamais su où être enterrée. Puis, à un moment donné, la famille, sa sœur a découvert il y a 7-8 ans qu'elle était enterrée dans une fosse commune à Ganawagé, au cimetière. Puis la famille était descendue cet été dans une cérémonie à Ganawagé, puis j'étais avec eux autres là-bas. Puis après, les gens sont venus chez nous, on avait le droit d'être dehors, c'est-à-dire qu'on avait fait un barbecue dehors avec la famille, puis tu sais, j'avais une fille qui est de 40 ans, qui est la fille de la cousine de ma mère, qui me disait, moi, ma mère n'a pas voulu m'apprendre les Nouaïmoun parce qu'elle me dit, je veux pas t'apprendre la langue qui m'a causé autant de problèmes dans la vie, puis que toi, tu vives ça. Tu sais, c'est une femme de 40 ans qui me dit ça.
Ouais.
Alors, tu sais, il y a des blessures, il y a des affaires qui sont là, puis ça, ben, ça laisse des cicatrices, mais je pense, moi, quand même que les choses au Québec, en tout cas, je sens qu'il y a quelque chose chez la majorité des gens, pas tout le monde, tu sais,
mm-hmm,
mais chez la majorité des gens. Moi, j'ai à tous les jours, j'ai des courriels de gens qui ont lu Cocum, là, puis qui me disent je le savais pas, puis merci, maintenant je vois les choses autrement. Alors des fois, c'est juste parce qu'on ne sait pas.
C'est ça, puis c'est de rendre ça visible. L'affaire Josh Echaquan, définitivement, a joué là-dessus, d'un côté dramatique. Même chose avec les corps retrouvés sur les terrains des pensionnats. Mais je pense que ça commence plus jeune. Je le dis souvent, mais moi, ce que je retiens de mon éducation concernant les Premières Nations, c'est Iroquoien sédentaire et Algonquien nomade. That's all, c'est ça qu'on apprenait. Là. D'après toi... Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour dans le système d'éducation pour faire en sorte que rapidement les jeunes soient conscients de cette réalité-là puis en apprennent davantage sur nos voisins et des gens qu'on côtoie puis des gens qui partagent notre territoire?
Ben tu sais, l'histoire, on apprend l'histoire du Canada là, à l'école. On est en France, puis avec Jacques Cartier, là, les Français débarquent ici, puis l'histoire du Canada commence en 1534. Mais c'est parce que ça fait 10 000 ans qu'il y a du monde qui vit sur le territoire. Les Français, eux autres, par exemple, ils sont pas descendants des Gaulois. Là. Ils sont descendants des Francs qui sont arrivés au Moyen-Âge avec l'évasion des barbares qui arrivaient d'Allemagne. Mais est-ce que les Francs étudient l'histoire à partir des Francs puis de l'arrivée de Charles Martel? Disent non. Ils s'intéressent à l'histoire des gens qui ont vécu sur leur territoire depuis toujours. Nous autres, ici, on s'intéresse à l'histoire quand les Européens arrivent. Puis c'est... On va le dire, moi, j'aime pas tellement utiliser le terme, mais quand les colons européens arrivent, c'est l'histoire coloniale qui est enseignée, c'est celle du Canada. Alors, moi, je pense qu'il faut commencer à... C'est-à-dire, ils ont fait une découverte archéologique, je pense, l'année passée, à Machouillas, d'où ma famille vient.
Mm-hmm.
Puis là, ils ont trouvé des outils, des endroits où les gens ont fait la cuisine, etc., qui datent de 5000 ans, à Machouillas, sur le bord du lac Saint-Jean. Donc, ça fait au moins 5000 ans que là même où est-ce qu'on vit, il y a des gens qui vivent.
C'est fou.
Tu penses à toute l'histoire qu'il y a là?
Incroyable.
Mais on s'intéresse pas à ça. Alors, je comprends que c'est plus difficile parce que c'était pas des sociétés qui écrivaient. Ils ont pas laissé des pyramides puis des temples en haut d'une montagne comme les Grecs. Mais il y a de l'archéologie à faire, il y a des choses à faire, il y a à fouiller. Puis ça, c'est quelque chose qu'on va devoir faire. Puis après ça, il faut commencer à enseigner ça aussi. aux Autochtones. Puis encore là, les Autochtones, tu sais, on apprend un peu d'histoire quand on est jeune, mais après ça, ça arrête à un moment donné, là, quand la société évolue, qu'on n'entend plus parler.
Ouais.
Alors qu'il s'est passé bien des affaires. Alors, je pense que ça commence par le système scolaire, puis ça commence par raconter l'histoire de tous ceux qui ont habité sur ce continent-là. Tu sais, j'avais un reportage, j'ai vu un article la semaine passée, c'est dans Le Soleil.
Ouais.
Puis la chroniqueuse a critiqué le fait que Mary Simon parle pas français au discours du trône. Correct, on peut discuter de ça, moi j'ai pas de problème avec ça. Mais ça, à un moment donné, elle dit, elle écrit quelque chose comme, en plus, elle a parlé en Inuktitut. Puis là, l'Inuktitut, c'est même pas une langue qui est parlée par la majorité des Autochtones. Puis de réduire le français à côté de l'Inuktitut, c'était comme réduire le français au plan de la diversité. Là, moi, j'ai répondu sur Twitter, je m'excuse, mais l'Inuktitut qui est parlé depuis 5000 ans au Québec, là, c'est pas une langue de la diversité. C'est une langue autochtone qui est là depuis au moins 4500 ans avant le français. Tu peux pas les mettre... Je dis pas que c'est mieux ou pire, c'est juste pas la même chose. Puis dans le fond, ce qu'elle disait, ça révélait son ignorance à elle. Maintenant, on mélange les affaires, c'est ce genre de choses-là, c'est faux.
Ouais.
Faut commencer avec les jeunes, puis pour faire en sorte que, quelque part, en vieillissant, les gens soient mieux informés. Puis à partir du moment où on est mieux informés, on est plus ouvert.
Et c'est ça
qu'il
faut
faire. L'ignorance qui est l'ennemi de toutes les civilisations.
Et je pense que c'est la meilleure phrase pour conclure ça. L'ignorance qui crée tellement de malentendus et de problèmes. Joe Jagger est disponible en librairie avec, évidemment, tous tes autres romans, tous tes autres recueils. Michel, ça a été un plaisir de te parler. Super agréable et intéressant.
Ouais, merci gentiment, puis salut tout le monde à Québec.
Salut, à bientôt. Salut, Michel. Michel Jean, auteur, chef d'antenne. Hey, on a couvert beaucoup de terrain dans cette entrevue-là. Qu'est-ce que vous en avez pensé? 25-226.